Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Il faut nous alléger pour avoir un cœur plus libre et sortir de l'autosuffisance et de l'individualisme pour mieux être à la suite du Christ. C'est ce que le pape François a écrit dans les textes de sa catéchèse préparée pour mercredi. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Tchad, au Congo-Brazzaville. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment au Sahara occidental, en République démocratique du Congo, au Rwanda. Un accord minier entre les États-Unis et la RDC risquerait non seulement de bouleverser les rapports des forces dans la région, mais pourrait aussi redessiner les alliances internationales. C'est l'avis du jésuite kényan Elias Omondi Opongo, professeur à Ekima University College. Vous l'écouterez dans cette édition. Vous suivrez aussi, une fois de plus, Issoufou Yaya, historien et enseignant des sciences politiques à l'Université de Niamey, sur les enjeux de la réorientation géopolitique et militaire qui est en train de prendre le Niger. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Dans son quatrième volet du cycle des catéchèses consacrées aux rencontres de Jésus, le pape François revient sur celle avec l'homme riche. Dans les textes préparés pour l'audience générale de mercredi, il montre combien Jésus nous aime pour ce que nous sommes, malgré nos faiblesses et nos péchés. Il explique aussi qu'il faut nous alléger pour avoir un cœur plus libre et sortir de l'autosuffisance et de l'individualisme pour ne plus être seul. Les précisions de Xavier Sartre.
Ce qui compte vraiment pour être heureux est ce que nous portons dans le cœur. C'est ce qui peut résumer la catéchèse du pape François. Dans ce texte, il revient sur la rencontre entre Jésus et l'homme riche, celui qui n'a pas de nom et qui demande au Christ ce qu'il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Ce qui frappe dans cet extrait de l'évangile de Marc, c'est que cet homme ne connaît pas le vocabulaire de la gratuité. Tout semble être dû, tout est un devoir. Mais où est l'amour dans tout cela? Se demande alors François. Cela n'empêche pas Jésus de regarder à l'intérieur de cet homme et de l'aimer comme il est, malgré ses fragilités, preuve de la gratuité de l'amour du Christ, à l'opposé de la logique qui anime l'homme riche, homme qui souffre par ailleurs d'un manque, celui de ne pas être aimé. Pour y remédier, le pape explique qu'il faut vendre tout ce qui nous alourdit pour rendre plus libre notre cœur. Il ne sert à rien de continuer à prendre soin de nous-mêmes si nous ne donnons pas aux pauvres, si nous ne mettons pas à disposition et si nous ne partageons pas. Enfin, cet homme riche est seul, anonyme. Or, comment retrouver un nom si ce n'est dans une relation? Quand quelqu'un vous appelle, si aujourd'hui nous sommes si tristes, c'est peut-être d'ailleurs bien parce que nous vivons dans une culture de l'autosuffisance et de l'individualisme et que personne ne prononce notre nom. L'espérance pour François est donc que nous changions pour prendre le large.
Merci Xavier. Face aux difficultés que nous voyons dans le monde et que nous ressentons dans nos cœurs, je vous recommande de persévérer dans la prière en témoignant chaque jour de cette espérance qui fait de nous les sels de la terre. Exhortation du pape adressée mercredi aux pèlerins des diocèses italiens de Grosseto et de Pitigliano Sovana Orbetello. Dans le message qu'il leur a adressé, François a aussi eu une pensée particulière pour les malades et les personnes âgées. Vivons ces temps d'épreuve en contemplant le Seigneur Jésus sur la croix, source des consolations et des saluts, a écrit le pape. Le Saint-Père qui a aussi accepté mercredi le renoncement au gouvernement pastoral du diocèse de Port Harcourt au Nigeria, présenté par Mgr Camillus Archibong Etokudo. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Tchad. Après une semaine intense, les activités marquant la semaine Caritas de l'archidiocèse de N'Djamena a pris fin par plusieurs eucharisties célébrées dans différentes paroisses, vicariats et communautés de l'archidiocèse de N'Djamena. Les détails d'Edouard Takadji.
Fidèles de l'Église famille de Dieu, soyons témoins de son amour. C'est autour de ce thème que s'est déroulé du 1er au 6 avril 2025 dans toute l'archidiocèse de N'Djamena cette semaine de la Caritas. Pour l'abbé Raymond Madiro, vicaire épiscopal chargé du développement humain intégral, le but de cette semaine Caritas est de sensibiliser les fidèles à la connaissance, au rôle et à l'esprit de la Caritas. Par des activités variées, explique-t-il, la Caritas vient à travers cette activité mobiliser les moyens tant en nature qu'en argent pour réaliser les projets et surtout venir en aide aux plus fragiles de l'Église famille de Dieu qui est en N'Djamena. En présentant aux fidèles ce qu'est la Caritas, nous avons récapitulé nos efforts antérieurs pour vivre notre devoir de fraternité et d'attention en tant que Caritas. Cet exercice nous permettra d'apprécier ce que nous sommes capables de réaliser ensemble à notre niveau. Nous découvrirons alors les chemins qui nous restent. Nous partagerons aussi ce que nos frères et sœurs des autres Caritas ont réalisé durant l'année écoulée, précise le vicaire épiscopal chargé du développement humain intégral, Abbé Raymond Maduro. Il ajoute que ce temps de grâce permet aux fidèles de se renouveler et de se convertir afin de se remettre résolument à la suite du Christ pour l'imiter dans la pratique et l'amour concret et personnalisé. Le temps de carême est celui durant lequel nous sommes appelés à manifester plus de miséricorde. C'est pour cela que les quêtes du chemin des croix sont souvent affectées aux caritas paroissiales. Signalons que le dimanche de Rameau a été retenu au nouveau de l'église famille de Dieu qui est au Tchad comme journée de solidarité avec les quêtes impérées. Edouard Takadi N'Djamena pour Radio Vatican.
C'est la prise en charge des paroisses par ses fidèles qui permet la construction et une bonne dynamique paroissiale. Exhortation de Monseigneur Abel Liluala, archevêque des Pointes-Noires au Congo-Brazzaville. Le prélat congolais a conclu sa 7e visite canonique et pastorale de l'année pastorale en cours. Il était à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Les détails avec Séverin Moussavou.
Érigée en 2019, la paroisse Sainte-Joséphine Bakita constitue l'un des défis majeurs pour l'archidiocèse de Pointe-Noire. Ainsi, dans l'intention de mieux faire, Monseigneur Abel Liluala et sa suite ont écouté et dialogué avec toutes les entités paroissiales afin de les relever ensemble. L'archevêque de Pointe-Noire faisant le point de sa visite.
Là où il y a des hommes, il y a des hauts et des bas. Mais quand on tombe, on se relève. On soit une petite plaie pour que, ensemble, avec un cœur ouvert, la main dans la main, nous puissions construire notre paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Un jour, cette paroisse deviendra une grande paroisse de Pointe-Noire.
À 5 ans de sa fondation, la paroisse Sainte-Joséphine Bakita compte plusieurs mouvements d'apostolat. Séverin Moussavo pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. L'Algérie a regretté mercredi la réaffirmation de la position américaine alignée sur le Maroc pour le Sahara occidental, territoire au statut non défini à l'ONU où Alger soutient les indépendantistes du Polisario. Mardi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réitéré le soutien des États-Unis à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en recevant son homologue marocain Nasser Bourita. 3 Américains condamnés à mort pour leur participation à un coup d'État manqué en mai 2024 à Kinshasa, mais dont la peine a été commuée en prison à vie, ont été transférés aux États-Unis. C'est ce qu'a indiqué mardi le département d'État américain. Les 3 ressortissants, dont Marcel Malanga, étaient détenus à la prison militaire de Ndolo, située à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les 3 jeunes hommes, âgés de 23 à 37 ans, font partie d'un groupe de plusieurs dizaines d'hommes armés qui avaient attaqué le 19 mai 2024 les domiciles de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les assaillants avaient ensuite investi les palais de la nation, bâtiment abritant des bureaux du président congolais. L'école belge de Kigali doit, à compter de la prochaine rentrée scolaire, cesser d'appliquer les programmes d'enseignement belges. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministre rwandais de l'Éducation, alors que le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique. Les relations entre les deux pays sont devenues particulièrement houleuses depuis que le mouvement M23 soutenu par Kigali s'est emparé des villes de Goma et de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. La Belgique a été l'un des pays les plus critiques de Kigali, pressant notamment l'Union européenne à imposer des sanctions contre des chefs militaires rwandais et un responsable du secteur minier. Restons dans ces contextes tendus où l'un des principaux moteurs de la guerre entre l'armée congolaise et les mouvements M23 soutenus par le Rwanda est l'exploitation des riches réserves minérales situées à l'est de la RDC. Après des semaines de combats, les membres du groupe armé M23 se sont finalement retirés de la stratégique cité minière de Walikale dans le Nord Kivu. Une nouvelle qui coïncide avec la tournée dans la région des Grands Lacs de l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos. Pour les prêtres jésuites Elias Omondi Opongo, professeur à Hekima University College au Kenya, Un accord minier entre les États-Unis et la RDC risquerait non seulement de bouleverser les rapports des forces dans la région, mais pourrait aussi redessiner les alliances internationales.
La République démocratique du Congo possède, disons, plus de grandes réserves mondiales, en fait, de cobalt, de cuivre, de lithium et d'or. Ces ressources sont stratégiques actuellement et cruciales, en fait, pour la transition énergétique mondiale. Et ça n'intéresse même pas seulement les États-Unis. On sait bien qu'il y a beaucoup d'autres pays occidentaux qui sont déjà là, et même des pays régionaux qui cherchent toujours à exploiter le Congo.
Cet accord, s'il est signé, risque-t-il de bouleverser les rapports de force dans la région?
Oui, je pense qu'il pourrait redessiner en fait les alliances internationales en fait. Parce que d'abord, les États-Unis est beaucoup plus fort si on compare avec d'autres pays. Il y a déjà les Chinois qui ont beaucoup d'influence maintenant en Afrique. Et je pense que maintenant, avec les États-Unis qui est en train de négocier aussi avec l'Ukraine de la même façon, ça va quand même changer les enjeux politiques régionaux. Il y a le Rwanda maintenant qui est dirigé par Paul Kagame qui a montré beaucoup d'intérêts stratégiques et sécuritaires dans l'est du Congo, notamment dans les zones riches en minerais. Ils font que la stratégie employée par les États-Unis soit vraiment bien pensée, bien calculée et aussi avec la consultation des pays régionaux pour trouver quand même une solution durable.
Quelle pourrait être la réplique de Kigali?
Cet accord-là est perçu comme une menace directe ou peut-être comme un déséquilibre dans l'accès aux ressources. C'est fort possible que Kigali pourrait renforcer aussi son influence militaire par des groupes armés locaux ou même par des pressions diplomatiques régionales. Parce qu'il existe quand même aussi une sorte de risque, je dirais, d'escalade si l'accord n'intègre pas une vision régionale et concertée. Et on sait bien que comme pays, le Congo n'arrive pas vraiment à assurer la population de sa sécurité, surtout à l'est du pays. Deuxièmement, il y a aussi question de corruption de gouvernance avec la question des M23 et aussi l'armée congolaise et aussi FDLR. Tous ces groupes-là, si on les pousse vers la frontière, cela aussi pourrait encore créer une sorte d'insécurité pour le Congo et aussi pour les pays voisins.
L'administration Trump pourrait-elle aider à stopper cette guerre et faire fléchir Kagame?
Je ne pense pas que c'est un seul pays qui vraiment arrivera à stabiliser le Congo. Je pense que les États-Unis ont une force formidable pour le faire, mais il sera mieux de le faire, disons, à travers l'ONU. Ou bien à travers l'Union africaine, ou une sorte de consortium, comme on dit en anglais, donc plusieurs pays qui se réunissent pour adresser ce problème-là, même si c'est mené par les États-Unis. Donc, ils font qu'il y a quand même une bonne stratégie de sécurité d'abord, plutôt que stratégie d'exploitation.
Est-ce que les minerais sont un enjeu décisif pour l'avenir de la RDC?
Les minerais, ça tire beaucoup et aussi ça finance la guerre. Donc, si on arrive à maîtriser ces minéraux-là, pour dire que c'est important que le gouvernement congolais contrôle ces minéraux et aussi voir comment partager là pour améliorer la vie des Congolais, c'est ça qui est vraiment très, très important pour en principe. Et pas seulement au Congo, mais aussi partout en Afrique. Il faut que nos gouvernements arrivent à avoir le devoir d'abord d'utiliser ces minéraux comme une manière d'améliorer la vie des citoyens. Mais si on laisse ça d'une manière que ça crée la guerre infinie, donc ça posera des problèmes.
Le père jésuite Elias Omondi Opongo, professeur à l'université Hekima University College au Kenya, il était interrogé par Augustine Asta. Quittons l'Afrique centrale pour nous rendre à l'ouest du continent. 18 mois après les coups d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le Niger cherche à affirmer sa souveraineté après la rupture avec ses partenaires traditionnels occidentaux et régionaux. Dans un contexte donc des réorganisations sécuritaires au Sahel, pour Issoufou Yaya, historien et enseignant des sciences politiques à l'université de Niamey, la création, par exemple, de la force militaire unifiée de 5000 hommes dans le cadre de l'AES manifeste la grande volonté du Niger de matérialiser cette alliance des États du Sahel. Dans cette seconde partie de son entretien accordé à Radio Vatican, Issoufou Yaya nous situe davantage sur les enjeux de cette réorientation géopolitique et militaire.
La mise en place d'une armée commune, ça fait partie de la première volonté de matérialiser cette alliance des États du Sahel. En quelques mois, il n'est pas commode de mesurer véritablement le pas qui a été fait. Il y a des progrès et des victoires qui sont remportées, mais elles sont invisibles parce que peut-être que la plupart des pays occidentaux veulent voir plutôt le mal infligé par les terroristes que les victoires remportées par les différentes armées. Et il faut aussi dire que ces armées, elles se battent seules avec quelques pays amis qui les épaulent, mais en réalité, les terroristes, ils sont soutenus. Ils ont des appuis, puisqu'on ne fabrique pas ces armes sophistiquées que les touristes possèdent. Elles viennent de quelque part.
Quel bilan tirer sur le plan de la politique intérieure à ce stade?
Sur le plan international, je ne condamne pas la sortie de la francophonie. À la limite, c'est ce qu'il y avait de mieux. Je ne condamne pas, tout au contraire, j'apprécie fortement le fait que le Niger ait chassé toutes les forces stationnées à l'intérieur du pays parce qu'elles étaient inutiles, elles n'étaient pas là dans le sens de sécuriser les Nigériens. Et le drame, c'est que ces forces dites internationales ont fragilisé l'armée nigérienne. Elles ont été imposées par l'ancien président Issoufou et l'ancien président Bazoum au point où le fait même de ne plus les vouloir sur la terre nigérienne constituait un délit aux yeux de ces deux anciens présidents. Donc le Niger est aujourd'hui dans une voie autre, entre la fin d'une mise sous cap par les anciens présidents et la recherche d'une nouvelle voie à travers une alliance avec le Mali et le Burkina, deux pays qui ont une histoire commune. Et aussi longtemps qu'on regarde dans le passé, on est dans un même ensemble pendant tout le Moyen-Âge et c'est la colonisation européenne qui a fracturé cet ensemble, qui a une homogénéité, qui a une géographie commune, qui a une histoire commune, et peut-être que aujourd'hui, je pense que les moments, ils devraient être douloureux, mais rien ne s'est fait sans la douleur.
18 mois après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, un nouveau rapport de l'ONG Amnesty International sorti le 18 mars alerte sur la situation préoccupante des droits humains dans le pays. Qu'en est-il sur le terrain?
Vous savez, toutes ces organisations internationales, elles sont à géométrie variable. Il faut dire les choses. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une législation qui a existé du temps de l'ancien président sur la cybercriminalité qui s'applique. Et peut-être c'est cette loi qui pourrait être revue pour s'adapter au contexte. Mais je peux vous dire, entre les 18 mois et les 10 dernières années, il y a plus de liberté ces 18 mois que les 10 dernières années de gouvernance. Quand il y a eu le renversement du régime du président Bazoum, la communauté internationale a pris fait et cause pour le régime du président Bazoum. Mais nous qui vivons toujours et qui avons vécu la gouvernance avant le président Bazoum, donc celle de M. Issoufou, qui était adoubé par la terre entière, nous donc savons réellement ce que nous vivions. Nous étions dans une prison qui ne disait pas son nom. Nous étions dans une insécurité totale. Nous étions dans une oppression qui n'a jamais dit son nom. Et ça, l'Occident ne le voyait pas. Maintenant, M. Bazoum ayant été renversé, cette même communauté internationale a pris fait et cause pour ce qui était, pour nous, la fin d'un calvaire. Ce que nous, Nigériens, avons vécu, c'est vraiment la pure atrocité, la pure cruauté qu'on pouvait infliger à un peuple parce que ce peuple a décidé de se libérer d'une tutelle parce que le Niger est riche, ses matières premières étant quasiment volées par les puissances occidentales, eh bien, le pays a voulu opérer un tournant, eh bien, il y a eu cet embargo.
Vous venez de suivre Issoufou Yaya, historien et enseignant des sciences politiques à l'Université de Niamey au Niger. Des propos recueillis par Augustine Asta.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est
c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.